le père Sestac ?
La vie du père Louis-Édouard Sestac, 1801-1868, un récit de sœur Fanny Marticorena, raconté par sœur Rolande Iribarin.
Ordonné prêtre en 1825, l'abbé Sestac fut promu professeur de philosophie. Son amour des vastes synthèses, son esprit à l'affût des idées nouvelles, l'indiquait pour ce poste où il révélera la richesse de ses dons. Ne serait-il pas une des gloires de l'Église, un frère de Lacordaire, ce jeune professeur qui s'enthousiasmait aux écrits du génie qui faisait école depuis un an à la Chênaie, comme toute la partie montante du clergé, avec Gerbette, Lacordaire, l'abbé de Salinis, Guéranger, Comballo à la suite de Montalembert, Charles de Goux, l'abbé Sestac avait été séduit par l'élan apostolique qui se dégageait du premier volume de l'essai sur l'indifférence, paru en 1817. Édouard était préparé à accepter les conclusions du dictateur, condamnant l'orgueil humain et réclamant la soumission de la raison à la parole de Dieu, seule source de toute vérité. La foi reçue de sa mère, son éducation chez le peuple basque, pour qui Dieu est le Yauna, le maître incontesté, souverainement libre, expliquerait l'option du professeur de philosophie et son succès auprès de ses élèves. Une tempête pourtant soufflera sur la ressort, moins violente que l'ont le prétendu certains écrivains, mais qui dispersera lentement la remarquable équipe des professeurs. Monseigneur d'Astros avait quitté le diocèse de Bayonne pour prendre possession du siège archiépiscopal de Toulouse le 14 décembre 1830. Monseigneur Darboux arrivait à Bayonne le 25 février 1831. À la fin de l'année scolaire, l'abbé Sestac, démis de ses fonctions de professeur, était nommé vicaire de la cathédrale de Bayonne. On pourrait épiloguer sur les raisons de cette décision, étudier l'état de l'Église de France à ce moment précis, les problèmes posés à l'épiscopat par la publication de l'Avenir en 1830 et la situation nouvelle due au développement du machinisme. En ce qui concerne l'abbé Sestac, cette cassure peut être considérée comme un moyen providentiel employé par Dieu pour lui indiquer sa voie et le faire entrer dans un plan déconcertant, certes, pour la raison humaine, mais un plan d'amour. Après les joies de la spéculation, après la marche passionnante dans le domaine des théories aux frontières toujours plus reculées, Édouard Sestac apprendra ce que c'est que l'homme dans sa réalité concrète et journalière, l'homme de la rue qui souffre, peine et n'a presque pas le temps de penser. Devant lui se posera le problème de ces classes que l'on qualifiait de dangereuses et que Victor Hugo a fait revivre dans ses romans. Le jeune vicaire ira jusque dans les bas-fonds où s'agit une société trop souvent ignorée par ceux qui sont persuadés que la misère n'est que le résultat du vice et qu'il suffit de moraliser le peuple pour lui rendre le bonheur. Précurseur des catholiques sociaux qui bientôt chercheront des remèdes au mal grandissant, l'abbé Sestac étudiera les causes spécifiques de la détresse dont il est le témoin. Bayonne, en effet, pouvait se féliciter du bon ordre qui régissait les rapports de la majorité de la population et les bourgeois bien-pensants de la ville, fidèles à la tradition séculaire établie par les notables du pays, pouvaient dormir la conscience tranquille après avoir versé d'abondantes aumônes pour les pauvres qu'ils patronnaient. L'abbé Sestac, lui, aperçut l'insuffisance de tels secours. Et par ses contacts avec les habitants des quartiers déshérités, il sentit combien les aspirations des masses étaient étouffées par le paternalisme auquel on les avait habitués. plus que le droit de vivre. Les malheureux voulaient qu'on leur reconnaisse le droit de se développer harmonieusement, le droit de travailler, de décider d'eux-mêmes. Ils se refusaient à être menés comme des êtres inférieurs par les puissants. Ils réclamaient inconsciemment de juger eux-mêmes de l'idéal à suivre et des moyens à prendre pour être heureux. Ce n'est pas un bonheur tout à fait qu'ils demandaient, mais une coopération active et l'amélioration de leur vie. Ils désiraient être les artisans de leur propre progrès. Ce qui fait l'originalité de l'abbé Sestac, c'est peut-être moins son esprit de foi, de charité, que cette vue générale du vrai problème posé à la société du XIXe siècle et les efforts accomplis pour adapter son action à une mentalité nouvelle. Ces conceptions qui paraissent familières aux lecteurs de la dernière encyclique sur le progrès des peuples firent alors choc comme des idées révolutionnaires. De quoi se mêlait-il donc le troisième vicaire de la cathédrale? Ne pouvait-il pas, comme les autres, se contenter d'instruire les enfants du catéchisme, de célébrer les saints mystères, de grouper les personnes d'œuvre, de confesser et de soutenir les mouvements existants? Les réunions des jeunes filles de la persévérance et la congrégation des enfants de Marie, cela passait. Les cercles pour les jeunes gens de l'action catholique, fort bien. Mais que faisait-il dans ces quartiers populeux où l'on fuyait les uniformes et les représentants de l'ordre? Les habitants des terrains vagues, hors les portes de la ville, furent sûrement effrayés lorsqu'ils virent s'approcher la soutane d'un prêtre. Peu à peu, cependant, la crainte fit place à la confiance, à l'espoir. L'abbé réfléchissait. Quel serait l'avenir de ces fillettes qu'il rencontrait, orphelines pour la plupart, quelques-unes dans une situation plus pénible encore, avec des parents qui exploitaient leur jeunesse pour assouvir leur passion?
Bientôt, la suite de la vie du père Louis-Édouard Sestac, d'après un récit de sœur Fanny Marticorena, raconté par sœur Rolande Iribarin.